Bonjour, ici Chantal Lavoie pour cette avant-dernière émission de Aime l'été, déjà, et jeudi 31 août, dernière journée du mois d'août. On va donc profiter pleinement des derniers instants de cette saison estivale, l'été qui officiellement se termine le 21 septembre quand même. Alors encore de belles journées à venir, même si pour la plupart les vacances sont terminées. C'est une joie de passer cette prochaine heure avec vous. D'autres sujets fort intéressants, nous allons parler de théâtre, du théâtre de création qui se distingue à travers des projets qui voyagent et nous font découvrir des femmes très engagées dans leur démarche. Mais aussi, nous nous intéressons à l'art qui ratisse large, de l'art qui se veut inclusif et en même temps, on découvre un organisme et un lieu de diffusion qui offre des opportunités à des artistes marginalisés ou peu représentés. Et enfin, des jardins en plein cœur de la ville pour amener de la vie, de la culture et une foule d'activités dans un quartier qui vit quand même des moments plus difficiles. C'est tout cela Aime l'été. Bienvenue à notre belle rencontre quotidienne sur les ondes de Canal M. Et aujourd'hui, je reçois la comédienne et metteur en scène Ximena Ferrer, qui nous parlera d'une expérience théâtrale intime et innovante qui sera présentée du 2 au 30 septembre à la Maison de la rue Folhomme. On y présente Deseo, qui veut dire désir en espagnol et qui réunit 5 femmes, 4 histoires et 45 spectateurs, spectatrices. C'est une production de la compagnie Singulier Pluriel. Nous allons aussi du côté du quartier latin pour parler des activités qui s'en viennent au Jardin Gamelin, un lieu situé à 2 pas de la Grande Bibliothèque qui accueille aussi beaucoup d'événements durant l'été et tout au long de l'année. On en jasera avec Émilie Chabot. Mais d'abord, l'équipe de Mai, Montréal Art Interculturel, est heureuse de présenter sa 25e saison, Les feux qui brûlent en nous. J'accueille dans un instant Camille Larrivé pour en parler. Suivez-nous jusqu'à 13h à Aime l'été. Eh bien voilà, j'accueille tout de suite l'invité qui va ouvrir cette émission, Camille Larrivé, qui est à la direction générale et artistique du Mai. Et évidemment, le Mai qui est quand même un lieu de diffusion à la fois. Et puis en même temps, ben, je veux dire, c'est un organisme très connu. Bonjour.
Bonjour.
Alors oui, ça fait quand même, je pense, pas loin de 25 ans que ça existe.
Effectivement, ça fait près de 25 ans que ça existe. Le Mai, c'est un lieu vraiment unique à Montréal par la diffusion puis la production d'œuvres. On a une salle de théâtre, une salle de galerie d'exposition, puis on a aussi un café-bar et des studios de répétition pour les artistes.
C'est ça. Donc, bon, d'abord, vous êtes quand même nouvellement nommé à la direction. Vous étiez, vous faites de la création vous-même et puis des projets déjà interdisciplinaires et puis vous avez quand même une vision artistique très rafraîchissante, cela dit. Et puis, bon, vous étiez dans l'inclusion, vous avez une approche humaine, vous êtes dans la bienveillance, bien sûr. Alors, des atouts des atouts précieux pour le Mai.
Oui, mais oui, effectivement, j'ai commencé mon nouveau poste au Mai seulement à l'hiver dernier, donc c'est toujours frais pour moi. Mais en fait, moi, j'ai toujours apprécié le Mai. Je fréquentais le Mai déjà beaucoup parce que, comme vous avez mentionné, c'est un lieu où la bienveillance, l'inclusion, mais aussi les l'œuvre, les projets multidisciplinaires sont au cœur du Mai, donc on offre l'espace et la chance à des artistes qui sont peut-être moins représentés dans les musées, les galeries, qu'on dirait peut-être plus mainstream. Donc le Mai, c'est vraiment un lieu d'exploration, de diffusion assez unique.
C'est ça. Alors, Mai pour Montréal, art interculturel. Et puis, effectivement, c'est vraiment pour promouvoir des artistes, finalement, qui sont soit marginalisés, peu représentés. Mais là, on parle vraiment à tous les niveaux, là.
Oui. Oui, on parle à tous les niveaux. Donc, c'est autant des artistes de diversité, mais on a aussi diversité capacitaire, donc des gens avec plusieurs handicaps, des artistes qui représentent différents genres LGBTQ+. On a des artistes plus issus de l'immigration. Donc, on a beaucoup de sujets et d'artistes qui explorent des sujets peut-être plus politiques, plus engagés, des sujets identitaires. Et tout ça à travers vraiment la pluridisciplinarité de disciplines. Donc, on présente des projets qui mélangent danse, performance, théâtre, exposition, musique. Donc, voilà.
C'est ça, vraiment. Et puis bon, ça, on cherche à promouvoir, bien sûr, les artistes d'ici, mais bon, on peut avoir aussi des artistes qui viennent d'ailleurs, ou enfin, qui sont originaires d'ailleurs, de toute façon. Et puis donc, c'est un lieu d'échange en même temps, interculturel, qui transcende, bon, on l'a dit, le sexe, la race, la classe sociale, la capacité aussi, l'orientation sexuelle, la religion. Bref, c'est vraiment une inclusion à tous les niveaux. Et puis, ben, comme vous le disiez aussi, ça peut être des gens qui, finalement, vivent en situation de handicap. Alors, vraiment, et puis le lieu aussi est adapté en fonction de ça.
Oui, effectivement. Mais le lieu, en fait, le centre Stratton où le MAE est situé, c'est un lieu qui est aussi englobe beaucoup d'autres organismes qui font des organismes qui travaillent avec des populations avec différents enjeux capacitaires. Donc, le lieu est déjà adapté pour ces personnes-là. Donc, le MAE est vraiment, vraiment accueillant de ce côté-là.
Oui, parce qu'on parle, évidemment, bon, ça peut être aussi bien des salles de bain, des chaises pour tous les corps.
Exactement.
Bon, c'est ça, ascenseur et tout, mais également, on est dans la vidéo, l'auto... Permettez-moi, oui, de me reprendre, là. L'audio-description, enfin, c'est ce que je voulais dire, pour les personnes non-voyantes. Et puis, bien sûr, aussi, il y a des plateformes, là, enfin, pour les gens aussi qui ont des problèmes d'audition.
Oui. Donc, en fait, nous, on a un programme au MAE de médiation culturelle qui s'appelle Public Plus. Et puis, à travers Public Plus, on organise des activités d'accessibilité comme justement l'autodescription de spectacles, différents peut-être matériels comme des vestes tactiles que les gens peuvent mettre, etc. Plusieurs outils d'accessibilité pour des publics qui peut-être n'ont pas la chance ou l'opportunité de voir des spectacles qu'on dit peut-être plus pour les publics réguliers. Donc nous vraiment on construit un programme autour de ça. Donc pour dépendamment des spectacles, on offre différentes activités qui permettent à ces publics-là d'être présent, puis vraiment aussi de vivre le spectacle comme tout le monde.
C'est ça, on parle de, ben, entre autres, je faisais référence à ces dispositifs vibrotactiles hein, pour
Exactement.
Un auditoire sourd. Exactement. Alors, bon, alors c'est très, très intéressant comme lieu, effectivement, et c'est tout à fait, c'est important de connaître ce lieu-là, ce lieu d'échange, et puis, bon, ce diffuseur en même temps, parce que, bon, vous avez quand même toute une programmation que vous offrez, et puis c'est très, donc vous avez, je pense que de plus en plus, on vous connaît, et puis là, évidemment, vous avez un comité de sélection et tout, là, mais c'est vrai que les projets vous sont présentés en plus grand nombre maintenant.
Eh bien, en fait, pour cette nouvelle saison, donc on vient de lancer, on a fait notre lancement la semaine passée, jeudi dernier, on a 13 projets qu'on présente cette année, donc 3 expositions dans notre galerie et 10 projets pluridisciplinaires qui vont avoir lieu autant dans notre café-bar, notre théâtre et la galerie. Donc, c'est vraiment des projets qui aussi voyagent à travers nos différents espaces. Donc, comme je mentionnais, ces expositions-là, c'est et ces projets pluridisciplinaires-là sont vraiment pour tous les goûts et vont avoir lieu de septembre à juin. Donc, notre saison a lieu de septembre à juin.
C'est ça. Donc, une saison qui a pour thème les feux qui brûlent en nous.
Oui!
Alors, qu'est-ce que vous vouliez traduire par cette thématique?
Bien, en fait, moi, quand je suis arrivée à la direction du MAE en janvier, la programmation était déjà un peu complétée pour cette saison qu'on vient d'entamer, évidemment. Et moi, qu'est-ce que j'ai vraiment découvert à travers tous les projets qui sont présentés cette saison, c'est vraiment qu'est-ce qui réunit tous ces artistes-là. C'est vraiment, un feu qui brûle à l'intérieur de ces artistes-là, donc un feu qui est vraiment pas littéral, mais plutôt dans l'amour, dans le partage de communautés, de projets qui sont vraiment ancrés dans le collectif. Donc comment ces artistes ont toute une énergie en eux, ou est-ce qu'ils ont des choses à dire importantes. Donc c'est tous des projets vraiment ancrés dans une pluridisciplinarité. Dans la réalité d'enjeux d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une métaphore pour dire nous avons tous un feu en nous qui est toujours là. Donc, on a une force qui crépite, une force artistique. Donc, c'est vraiment un peu plus dans l'idée du poétique. Et puis, Donc voilà, comment le feu aussi qu'on a en nous, nous réunit ensemble dans ces moments-là où est-ce qu'on veut voir ces projets.
C'est ça, donc c'est très porteur de sens. Et puis
oui.
En même temps, ben, c'est ça, c'est évidemment, bon, ça vise aussi votre programmation, bien sûr, a créé une solidarité.
Oui.
Vous êtes dans la bienveillance encore là parce que vous accueillez tout le monde.
Oui.
Bon, alors c'est ça, des artistes à la fois de tous origines, mais aussi, bon, des artistes qui ont des différences à tous les niveaux. Et puis, bon, c'est ça. Maintenant, la programmation qui s'en vient, là, plus près de nous, là, si on regarde, est-ce que vous pouvez m'en donner un petit aperçu?
Oui, en fait, notre premier événement de la saison aura lieu la semaine prochaine. On a le lancement de notre exposition, le vernissage de notre première exposition qui s'appelle Driving in Palestine, qui est une exposition de l'artiste palestinienne Riab Nazal. C'est une exposition qui mélange photographie et vidéo. Et puis, donc, le vernissage est le 7 septembre et l'exposition aura lieu jusqu'au 21 octobre. Donc, ça donne quand même assez de temps pour le public de venir voir cette magnifique exposition-là qui parle vraiment de la résistance du peuple palestinien. L'artiste s'est voyagé sur son territoire, a pris des vidéos, des photos des gens qui y habitent. C'est vraiment un projet très touchant. Donc, on commence la saison avec ce projet-là. Et cet automne, en fait, on a plusieurs projets de danse qui vont avoir lieu dans notre théâtre,
mm-hmm.
Qui inclut aussi le spectacle « À perte de vue ». De la compagnie de danse Lucie Grégoire et Corpuscule Danse. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec ce projet de danse, c'est ça inclut des artistes avec différents handicaps physiques qui vont danser sur scène. Puis c'est toute une réflexion autour du corps. Donc ça va être vraiment intéressant à voir, qui est du 11 au 14 octobre. Donc on commence la saison en feu avec des projets qui sont vraiment portés par des artistes très motivés, très engagés. Donc évidemment, on espère voir tout le monde. On a aussi des billets qui sont vraiment accessibles à différents prix.
Oui, bien sûr, ça c'est important.
Et ça c'est important.
C'est l'accessibilité aussi pour les spectateurs.
Exactement, ça c'est très important pour nous. Donc on a des prix étudiants, on a des prix pour les personnes aînées, on a des prix pour les personnes qui habitent dans le quartier aussi. Donc faire des liens d'appartenance avec les gens qui habitent dans le quartier pour s'assurer qu'ils sentent que le mai aussi est pour eux. Donc oui, l'accessibilité se fait à tous les niveaux.
À tous les niveaux. Et puis bon, on a parlé évidemment de ceux qui, évidemment les artistes que vous représentez, mais on a bien sûr les artistes autochtones aussi qui sont au cœur, bien sûr, de ce que vous pouvez nous proposer. Maintenant, aussi des personnes, on parlait des aînés, ben justement, des gens plus âgés. Souvent, c'est ça, on oublie cette clientèle-là très souvent de gens âgés, finalement. Donc, eux aussi sont marginalisés. Ça, peut-être, des fois, on en parle moins.
Oui, effectivement, on en parle moins. C'est une population d'artistes, mais aussi de public qui est peut-être moins visé par la promotion, par l'inclusion en général. Par exemple, nous, on présente un projet plus tard, en novembre et décembre, de l'artiste et danseuse Mona El-Husseini, qui fait un projet de danse pluridisciplinaire avec sa mère, qui est plus âgée, et donc elles sont les deux sur scène. Et c'est vraiment un projet qui se réunit autour de, ben, en fait, la vieillesse, mais aussi les relations mère-fille et comment leur univers se rencontre sur scène. Donc aussi, plus on fait une représentation de personnes aînées sur scène, dans la production de spectacles, dans les publics, plus les gens vont se sentir rappelés, vont sentir que c'est aussi pour eux. Donc c'est important de faire une représentation juste.
C'est ça. Donc vraiment, ce sont des spectacles où vraiment la créativité s'exprime à travers toutes les différences, enfin, et dans un esprit d'inclusion très intéressant. Puis en fait, c'est sûr qu'au départ, là, c'est un regroupement, évidemment, qui a été, en fait, a vu le jour autour des années 90. Alors voilà pourquoi on en est à notre 25e anniversaire aujourd'hui, ou presque, là. Mais enfin, mais ça a parti, évidemment, d'un regroupement pour le développement de pratiques artistiques interculturelles. Et puis, bon, ça a été, bon, avec l'aide de la Ville de Montréal, tranquillement, vous avez donc fait votre chemin. Et puis, ben là, ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. C'est quand même fantastique, ouais.
C'est quand même fantastique. C'est vraiment bien de voir le parcours de lieux qui sont vraiment portés par la communauté et qui évoluent d'année en année, qui se transforment. Donc, au cours des années, des dernières années, on a accueilli tellement d'artistes, autant locaux, régionaux, internationaux, mais aussi un public vraiment varié. Puis, on espère que le MEI continuera à grandir et à bouger dans les années futures.
Effectivement, vous êtes vraiment à l'avant-garde de toute façon. Donc, vous êtes taillé une solide réputation en tant que diffuseur et lieu de création. Et puis, vraiment, c'est à découvrir pour ceux qui ne vous connaissent pas. Et puis, bon, alors, le lieu comme tel, il est situé où?
Donc, on est situé sur Jeanne-Mance, vraiment à l'intersection du plateau Mont-Royal, mais aussi du centre-ville. Donc, on est au coin de Jeanne-Mance, entre Avenue des Pins et Léo Parizeau. Donc, très accessible en transport en commun au cœur du centre-ville.
Bon, alors c'est une belle expérience à vivre, d'aller voir vos spectacles et puis d'aller s'informer, d'aller sur les lieux aussi. Et puis, comme on l'a dit, il y a un café, n'importe qui peut entrer chez vous, là.
N'importe qui peut entrer chez nous. On est ouvert du mardi au samedi. Donc, venez voir nos expositions. On a notre site web si vous êtes intéressé à voir un autre spectacle. Il y a vraiment toute la description de la saison qui est là et tous nos autres programmes.
Eh bien, vraiment, ça a été très intéressant de parler avec vous de ce lieu de diffusion et de ce qui s'en vient. Vraiment, vous avez effectivement lancé votre programmation tout récemment, là, la semaine dernière, je pense.
Oui.
Hein? Alors, écoutez, Camille, ça a été un plaisir de vous parler.
Un plaisir partagé. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Au revoir.
Au revoir.
J'ai pas les mots pour éponger ta peine. J'ai que mes mains pour te compter la mienne. J'ai travaillé sans compter mes semaines. J'ai pas volé la vie que je t'apporte. J'ai pas voulu qu'elle étouffe la nôtre. J'ai tout fait pour que le nous l'emporte.
Je te savais simple, mais je te voyais seul. T'étais toute éteinte, pourtant si jeune. Oh, pourquoi? Dis-moi pourquoi. Alors j'ai dû ramer pour mieux te ramener. Enfant de mes yeux, j'ai allumé un feu. Oh, pour toi, rien que pour toi.
Je te fais la promesse du meilleur de moi-même.
Sepa mi deseo. No puedo mover las nubes, pero ser tu pelaje cuando lo quieras pedirme.
Tierra solitaria, pensativa, yo te pensé fuerte y no entendía. ¿Por qué? Dime por qué. Toma mi corazón, toda mi canción. Cuando hará frío, ha hecho un fuego ardiente, ardiente. Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne l'averse, je protège les vrais.
J'ai allumé un feu.
mes yeux, j'ai allumé un feu. Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne l'inverse, je protège les braises. Je te fais la promesse d'une vie de lumière. Et que tombe la neige, je protège les braises. Le feu.
En compagnie de Vianney, c'était Kenji Girac qui chantait la chanson « Le feu ».
Oui, alors maintenant, merci Mathieu. Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical. Eh bien, j'accueille maintenant Émilie Chabot, directrice développement et programmation au partenariat du quartier des spectacles. Bonjour!
Bonjour!
Eh bien, on va parler avec vous des Jardins Gamelin. Bon, d'une part, c'est sûr que c'est la fin de l'été, enfin, façon de parler. Il y a quand même encore quelques activités, bien sûr, au programme, là, même s'il y en a pas mal derrière nous aussi. Mais évidemment, on peut parler des Jardins Gamelin également, bon, au niveau, bien sûr, de son développement. Enfin, bon, d'abord, c'est un lieu qu'on a revitalisé complètement, qui s'est renouvelé, hein, ça, il faut le dire.
Oui, absolument. Donc, c'est un lieu qui vise la cohabitation dans le quartier. Et c'est vraiment un lieu qui, tout l'été, de mai jusqu'à septembre, donc le partenariat du quartier du spectacle est responsable de l'animer. Donc, c'est vraiment un lieu où on peut accueillir une mixité de personnes, des jeunes, des familles, des gens du coin, bientôt avec la rentrée, les étudiants également.
Bien sûr.
Et puis, donc, c'est un site qui est aménagé où on peut donc prendre plaisir à des activités culturelles. En même temps, on peut manger, on peut danser, on peut aussi voir des projets en agriculture urbaine.
Tout à fait.
C'est revitalisé, puis assez fantastique parce que la diversité de ce qu'il offre.
Exactement. Et puis, c'est à deux pas de la grande bibliothèque, faut le dire. Bon, mais il faut quand même pas se mettre la tête dans le sable, dans le sens que c'est un quartier qui a besoin d'amour. Et puis, bon, c'est vrai que c'est un quartier qui est peut-être, d'une certaine façon, un peu en déclin. Bon, c'est sûr que là, il y a des problèmes de logement, des problèmes d'itinérance. On le sait, ça, on en a parlé dans les journaux. C'est un petit peu, c'est sûr, les Jardins Gamelin, bon, c'est un peu l'épicentre aussi de la crise socio-économique qui secoue le quartier. Mais c'est pas que ça. Et donc, peut-être vous passez aussi par la solution en même temps?
Et en fait, nous, le pari qu'on fait, puis c'est un pari qu'on réalise depuis plusieurs années, là, parce que c'est la 9e saison, les problématiques que vous avez nommées, elles sont bien présentes dans le secteur. Par contre, ce qu'on voit, c'est que en offrant donc ce site aménagé et ces activités-là, on est capable de faire un climat qui est positif, dans lequel il y a une réduction donc des incidents qui peuvent se produire dans le secteur, et où on arrive à cette cohabitation qui est assez importante là, dans le secteur. Et je devrais vous dire que donc l'ensemble des partenaires communautaires, institutionnels, la Ville de Montréal, on travaille tous main dans la main là, pour faire de ce secteur un secteur où c'est agréable de pouvoir traverser puis faire différentes activités.
Oui.
Je vous parle des activités donc, qu'on peut faire à Gamelin.
Ben, c'est-à-dire que, oui, moi, j'irais dans le... effectivement, vous savez, on va tout à l'heure devoir s'arrêter pour une petite pause, mais bon, c'est pas tout de suite quand même, mais j'aimerais ça qu'on va se réserver la programmation à venir, mais c'est ça, donc j'aimais ça, l'idée de reparler de ce travail que vous faites au niveau de la mixité urbaine, parce que vraiment, comme je disais, vous faites peut-être partie de la solution pour vraiment revitaliser le quartier, parce que oui, les Jardins Gamelin, la place Émilie Gamelin, tout ça, ça a été revitalisé, on a fait du beau travail d'aménagement, et ça, il faut le dire, les gens qui ont travaillé, tous les acteurs sociaux, là, finalement, la collaboration qui s'est faite, puis vous parliez d'aménagement au niveau, bon, d'agriculture urbaine, il y a le sentier urbain, hein, qui a joué pour beaucoup dans cet aménagement.
Oui, donc, juste rappeler que c'est possible, en fait, ce projet-là, parce qu'il est soutenu par différents partenaires là qui prennent ça, chacun un bout sur leurs épaules. Effectivement, on a Sentier Urbain là, donc, qui donne des ateliers en agriculture urbaine qui sont là donc tous les jours. Ensuite de ça, donc, on a tout ce qui est les partenaires communautaires qui offrent des services en intervention sociale également sur le parc. On a également donc la présence policière ou de la sécurité, en fait. Et on a tous les partenaires culturels qui viennent donc ponctuer de belle façon par des activités artistiques et ou des prestations.
C'est vrai.
Ça fait en sorte qu'on est capable d'offrir un endroit qui, dont la fréquentation, elle est agréable, puis où il y a une mixité de personnes qui transitent. C'est assez exceptionnel. C'est pas partout dans le monde qu'on réussit à faire ça.
Ben exactement. Puis ben c'est pour ça que je dis que ça, que vous passez un petit peu par la solution, là, pour... Pardonnez-moi, je me suis étouffée. Aucun problème. C'est ça, donc ça passe par peut-être, c'est ça, vous avez en main la solution peut-être éventuellement pour relancer le quartier.
Des solutions, oui, il y a d'autres,
D'autres
projets en cours, donc des investissements. Je parle de tous les partenaires culturels aussi qui sont à tout près. Vous avez parlé tout à l'heure de la Grande Bibliothèque. Ils ont une programmation intérieure-extérieure. Donc, on a à proximité l'espace Saint-Denis. On a l'UQAM qui est un pôle extrêmement vivant. Ensuite, on a, pas loin de, sur Saint-Denis, on a une forte concentration de bars-spectacles. C'est un quartier qui est extrêmement vivant.
Bien, qui a toujours été très vivant. Et puis, oui. Bon, des fois, ça prend un petit coup de pouce. Et effectivement, on sait, bon, avec la présence de l'université et tout. Alors, c'est sûr qu'il y a des cycles hein, dans une ville, dans des quartiers. Alors, c'est sûr qu'il faut repenser tout ça, repenser la ville. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant. J'adore, moi, finalement, quand on voit la ville à travers tous ces projets. Puis même quand parfois ça semble s'en aller un petit peu en déclin, ben on trouve le moyen de relancer tout ça. Merci, je vous adore. Vous avez pris la parole au bon moment pour que je retrouve ma voix. C'était très gentil à vous. Alors, ça m'a permis, oui, de retrouver ma voix. Bon, c'est ça, j'allais vraiment tout à l'heure m'étouffer, sérieusement. Alors, cela dit, oui, vous parliez de partenaires. Je pense, par exemple, Montréal complètement en cirque, là, cet été, s'est établi dans le quartier latin, dans votre secteur, et il y a eu, effectivement, des performances. Il y a eu plein d'activités du côté de la place Émilie-Gamelin, des jardins Gamelin, tout ça. Alors, effectivement, il y a des gens qui, aussi, au niveau de tous ces événements, ces grands événements durant l'été, outre votre programmation à vous, mais il y a d'autres programmations également fort intéressantes qui permettent d'amener des gens dans ce secteur-là.
Et puis, tout à fait. Bien, on pense souvent à la place des festivals, donc qui est plus dans le pôle ouest du quartier des spectacles, où c'est là qu'on voit le plus de festivaliers et de festivals. Mais il y a une grande présence de festivals également dans le secteur est, du côté de Gamelin. Vous avez nommé Montréal complètement sûr, mais on reçoit aussi le festival Quartier Danse au mois de septembre. Tout le mois d'août, il y a également le festival Présence autochtone. Je dirais que les Jardins Gamelin, c'est comme un lieu d'accueil vraiment à différentes disciplines artistiques, une mixité de personnes, puis avec un climat qui est très, très la bonne entente et puis
tout à fait, c'est vrai.
La proximité.
On en reparle tout de suite après la pause. Justement, on s'arrête le temps d'une pause. Émilie Chabot, alors à tout de suite.
Vous écoutez Aime l'été.
Et de retour avec Émilie Chabot, directrice développement et programmation au partenariat du quartier des spectacles. On parlait bien sûr des Jardins Gamelin. Et puis ben là, vous allez pouvoir m'en parler un peu de la programmation. D'abord, j'aimerais ça vous demander comment s'est passé l'été. Vous aviez une superbe programmation, cela dit.
Oui, on a eu un été exceptionnel. Bon, malgré la température dont on ne parlera pas, il y avait quand même au centre-ville, en général, là, il y a eu un retour des touristes, une fréquentation assez importante. Là, les festivals ont sorti leurs chiffres là, petit à petit, puis on voit vraiment qu'il y a eu une excellente fréquentation et ça s'est ressenti aussi dans le quartier latin et au Jardin Gamelin. Donc, ça se passe très, très bien et ce n'est pas fini parce que la saison Gamelin se termine le 17 septembre, mais on a encore des activités tous les jours, le midi et le soir jusqu'à 23 heures. Donc, je parle un petit peu de ce qu'on peut y faire.
Oui, allez-y.
Donc, cette année, on a un partenariat en particulier avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, ce qui nous permet d'offrir davantage une voix, une place à la relève musicale d'ici. Donc, pour vous donner quelques exemples, donc on va recevoir Émile Bourgault demain, qui est gagnant du concours Ma première place des arts 2022, donc qui est auteur, compositeur, interprète, demain soir à 19h. Et pour vous donner aussi d'autres idées d'artistes de la relève, on aura aussi Tamara Weber, qui est révélation de l'année au GAMIC 2022. Et donc, vous aurez aussi Sophie Lucas, qui est gagnante de la cohorte Muse 2022, le 14 septembre, qui joue de l'instrument malien, la kora, donc c'est assez rare. Vraiment, la programmation
musicale... Oui, un très bel instrument.
Oui, la programmation musicale, elle est très variée. Je vous donne un exemple. Le 14 septembre, on va recevoir Abondance, qui fait de la musique antillaise. Mais on peut aussi danser, donc, à Gamelin. Samedi, c'est les fameuses soirées salsa folie. C'est extrêmement populaire. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle les balles de l'été, où, par exemple, le 23 août prochain, vous pouvez... En fait, ça s'est passé, mais on pouvait donc apprendre, par exemple, les bases de la bachata. Mais
donc, c'est ça. Donc, on suit ça pour... on surveille ça l'an prochain. Là. Il y en aura d'autres.
Exact. Oui, exact. Puis, donc, dans les festivals, j'en ai parlé, Quartier Danse qui s'en vient le 11 et 12 septembre. Puis, il y a aussi sur place des jeux géants. Donc, on a aussi installé pour la première fois cette année au sud de Gamelin, sur Sainte-Catherine, un mini-golf. Donc, vous pouvez jouer au mini-golf.
Ouais.
Et donc, on a aussi la participation de Randolph avec les quiz. Et le 13 septembre, il va y avoir une partie de loup-garou géant.
Ah, ben dis donc, alors c'est ça, on manque pas d'activité, puis bon, ce sera très festif encore jusqu'au 17 septembre, assurément. Donc, une belle programmation, mais dis donc, j'ai comme l'impression aussi que durant l'hiver, il se passe des choses.
Durant l'hiver, en fait, il y a l'année passée, on a fait sur Saint-Denis une première édition d'un événement de sport de glisse qui s'appelle APIC, où vraiment, en collaboration aussi avec la SDC du quartier latin, il y a eu donc Saint-Denis qui a été piétonnisé. Mm-hmm. On prépare quelque chose pour la saison hivernale pour bonifier dans le secteur. Pour l'instant, on ne peut pas encore en parler, mais ça s'en vient. On envisage de proposer également un pôle d'activité dans les jardins Gamelin.
C'est ça. Puis de toute façon, il se peut qu'il y ait aussi des partenaires, disons, autres qui, en fait, proposent aussi certaines activités sur les lieux. Bon, on voit ça quand même assez fréquemment. Il y a eu toutes sortes d'initiatives un peu, en fait, tout au long, évidemment, dans les dernières années, là. Et puis, c'est ça, je pense qu'aussi, il y avait ce groupe-là, et j'arrive pas à me souvenir du nom, là, vitement comme ça.
Mais dans le parc?
Dans le parc, et qui réunissait, dans le temps des fêtes, là, pour les gens qui étaient en itinérance, ouais, c'est ça? Qui étaient en situation d'itinérance.
Il y a plusieurs années, il y avait ATSA qui faisait état d'urgence, qui avait une présence à Émilie Gamelin. Maintenant, donc, cette activité n'existe plus.
Non, pas nécessairement, temps, mais donc... ce que je veux dire, c'est que, évidemment, si vous êtes appelé à avoir éventuellement toutes sortes d'événements aussi qui peuvent s'ajouter à votre programmation. Alors, ça peut être à longueur d'année, mais en tout cas, c'est un endroit que l'on fréquente de toute façon, qu'on peut fréquenter à tout moment.
Absolument, puis qu'on sera appelé à fréquenter davantage, comme vous nous amenez sur cette piste, plusieurs saisons par année.
Vous
faites bien de rappeler Noël dans le parc qui a lieu à la fin du mois de décembre, qui offre vraiment une belle variété de concerts aussi sur place.
Ouais. Bon, ben écoutez, ça a été fort intéressant de parler de effectivement, comme on le dit, d'un endroit qui peut-être donne l'impression là qu'on est un petit peu en déclin, mais vraiment il y a quand même aussi un souci de revitaliser le secteur. Et puis avec les Jardins Gamelin, ben vous avez quand même un lieu unique. Et puis vous avez une belle programmation en plus. Vous êtes très actif avec tous les partenaires, la ville de Montréal et tout.
Absolument. Ouais. Absolument. Moi, j'invite les auditeurs à venir dans le quartier. Lire le journal, c'est une chose. Vive le quartier.
L'expérience,
c'est une autre. Ça vaut vraiment la peine.
Et quand vous dites que ça danse jusqu'à 23 heures et que c'est très populaire, c'est parce qu'il y a du monde qui, effectivement, s'y rend et puis qui aime beaucoup votre programmation. Oui.
Absolument.
Il y a de quoi fêter, là. Merci infiniment, Émilie Chabot.
Merci à vous.
Ça a été un plaisir. Au revoir. Bonne journée à vous.
À vous aussi, au revoir.
Même si c'est l'inverse, pas besoin de mettre une veste, on va rester à la caille. On est en bobette, fume le cancan qui reste, t'es mis de prévoir aucun bail. On mange des brioches à la cannelle, brioches à la cannelle. On mange des brioches à la cannelle, brioche à la cannelle, afterburning camel. On reste à l'abri, dans le lit pas habillé. J'ai pas l'âge de Noé, baby, juste nous deux. Mélange jus d'orange avec une mousse. Gaillé sur la vie et tout est savoureux. Comme ce goûte, yeah. Pour les brioches, make me so wild. Yep, it's berry pour mon gros smile. Rappelle les dessins de ma grandma. Le bonheur en odeur pour maman. On va rester à la caille. On est en bobette. Fume le cancan qui reste. Et nous prévoir au travail. On mange des brioches à la cannelle. Brioches à la cannelle. On mange des brioches à la cannelle. Brioches à la cannelle.
Une tasse de lait. Bon, alors voilà, c'est le temps de dire au revoir à une chroniqueuse qui a été avec nous tout l'été, également recherchiste stagiaire. Ben, il en manque une, c'est Anaïs Sabourin. Et là, je suis avec Jennifer Andeau, enfin Aya Jennifer Andeau, qui était là tout l'été avec Anaïs Sabourin, nos deux recherchistes stagiaires qui aussi étaient avec moi pour des chroniques hebdomadaires. Maintenant, bonjour. Ben, ça me faisait, ben, j'avais envie de te dire au revoir parce que c'est à toute fin pratique, c'est ta dernière journée. Là, bon, nous, il nous en reste qu'une seule demain. Alors voilà, on achève notre saison. Alors c'était bien de se saluer puis finalement de voir un petit peu comment ça s'est passé l'été. Alors une expérience pour toi qui est quand même aux études en temps normal. Alors évidemment, une expérience estivale fort enrichissante, j'imagine.
Oui, c'était beaucoup de sujets qu'on t'a envoyés. Tu nous as fait part. Tu es allé dans beaucoup d'angles. Ça a été vraiment magnifique de t'entendre aussi. Puis les chroniques que j'ai faites, ben tout était vraiment très personnel. Donc, on essayait vraiment de se connaître tout
à travers tout cela. Oui, exactement. Alors, c'est ça. Donc, on a quand même couvert plus de 150 sujets différents. Alors, c'est quand même assez remarquable. Oui,
c'est très varié.
Oui, très varié dans tous les sens. Alors, vraiment, ben, je te remercie pour cet été. Ça a été vraiment très intéressant de partager ça avec vous. Et puis, bon, c'est ça. Y a-t-il des choses? Est-ce que, bon, toi, si on regarde ton expérience, et puis, bon, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire davantage, là? Non, ça va, tu es satisfaite?
Non, je suis vraiment satisfaite. Ça a été vraiment comme la belle chanson qui passait tantôt, comme une brioche à la cannelle.
Ah,
c'était
bien
doux,
dit.
C'était magnifique.
C'est ça. Donc, j'imagine des entrevues, des invités aussi qui t'ont peut-être marqué davantage. Ça, j'imagine. Ouais,
oui. Je me souviens
pas. Vitement comme ça, oui, c'est peut-être, il y en a eu tellement.
Il y en a vraiment eu beaucoup. Ouais. Mais je pense que c'était vraiment...
C'était tellement riche à la fois. En tout cas, chose certaine, c'était vraiment pour te saluer, pour te dire qu'on avait bien apprécié ton travail. Et puis, on salue en même temps Anaïs Sabourin, qui est déjà, elle, rentrée au bercail. Elle est déjà aux études. Elle a commencé déjà. Alors, merci. Et puis, on se retrouve peut-être l'an prochain. Alors, souhaitons-le. Merci. Et puis, c'est ça. Donc, on va passer une petite pièce musicale en attendant notre prochaine invitée. On parle de théâtre dans les prochaines minutes.
Deseo era una bella mujer, tenía ganas de crecer, pero decía que la amaba. Quería un lugar en la sociedad, pero la gente jamás la aceptaba y la odiaba. Deseo era su nombre porque su cuerpo era como un clavel perfumado. Los hombres la llamaban placer y le pagaban por tocarle la piel. Deseo condenada a vivir toda su vida infeliz porque era libre como
esmeralda, sino adentro, en el alma. Pobre deseo, luchaba en vano contra un mundo que se perdía en el espejismo donde estaba ella. Pobre deseo, de esquina a esquina esperando a un hombre nuevo que la quisiera. Deseo no entendía el por qué no se le daba el valor de un ser humano como a todos. Después de andar buscando el amor, al ver que no lo encontró, acabó viviendo en un cabaret. Deseo era su nombre porque su cuerpo era como un clavel perfumado. Los hombres le llamaban placer y le pagaban por tocarle la piel. Pensaba que el amor no reinaba en castillo de oro y esmeralda, sino adentro, en el alma. Pobre deseo, luchaba en vano contra un mundo que se perdía en el espejismo donde estaba.
Ah ben, c'était la petite musique, en fait, extraite de la bande-annonce de ce spectacle présenté par Singulier Pluriel. On accueille la metteur en scène et l'auteur et metteur en scène, Ximena Ferrer. Bonjour.
Bonjour, Chantal.
Ah, très heureuse de vous parler parce que très intriguée par ce spectacle,
oui.
Par votre compagnie. En fait, c'est vraiment très, très intéressant et très riche aussi comme démarche. Alors, du 2 au 30 septembre, le théâtre s'installe derrière les portes de la maison de la rue Folhomme. Et oui, c'est un lieu déjà qui intrigue, et oui, et va transformer ce lieu-là en ancien bordel abandonné. c'est ça, converti en refuge pour 5 femmes prisonnières, dit-on, de leur désir. Alors, parlez-moi de ce spectacle Deseo, qui veut dire Deseo. Ben, moi, je ne suis pas très bonne en espagnol, mais ça signifie désir, hein?
Exactement. Ça signifie désir. Puis aussi, ça peut signifier avoir souhaité quelque chose.
Ah d'accord, oui, bien sûr, c'est dans tous les sens.
Oui.
C'est le désir, ça peut être charnel, mais ça peut être, évidemment, le désir de posséder quelque chose, ou enfin, qu'importe, là, toute forme de désir, oui. Alors, j'aimerais ça qu'on parle, évidemment, de singulier pluriel, la compagnie, parce que, en fait, vous êtes co-directrice avec Julie Vincent.
Julie Vincent, oui, exactement. Julie Vincent et moi, on s'est rencontrés pour la première fois en Uruguay, de où je viens, à Montevideo. Elle travaillait avec une compagnie, une troupe de théâtre en Uruguay. Je l'ai rencontrée là-bas. Je commençais à suivre son travail. Après, je l'ai rencontrée plus tard. Je l'ai rencontrée en Argentine, à Buenos Aires. Je l'ai vue jouer. Puis finalement, quand je suis déménagée ici à Montréal, j'allais la rencontrer parce que j'aimais beaucoup son travail. Je savais qu'elle connaissait très bien ma culture.
C'est ça.
Elle a beaucoup travaillé en Amérique latine. Et c'était avec une personne que moi, je n'avais pas le besoin d'expliquer d'où je venais.
C'est vrai.
Je n'avais pas le besoin non plus d'expliquer c'était qui mes référents là-bas. Elle connaissait tout. Fait qu'avec Julie, on a compris très vite comment on voulait travailler. Maintenant, on est des grands amis, on est des collègues, des amis. Puis on essaye de se mélanger dans le travail, c'est-à-dire de se contaminer de nos deux cultures, d'avoir une conversation chaque fois qu'on rentre en création. Fait que oui, ça fait depuis 2014. Si je ne me trompe pas,
c'est
2015 que je travaille avec Julie.
Et puis, c'est ça. Donc, on devine tout de suite que vous êtes de grandes amies, forcément, parce que tout ça, on dit que, le gâteau a levé, comme on peut dire, finalement.
Exactement.
Oui, alors c'est sûr que vous avez fait déjà beaucoup de choses ensemble. Alors, c'est sûr que ça prend cette complicité, cet amour, cette compréhension de l'autre. Alors, ça va de soi. Et puis, parce qu'il y a eu beaucoup de productions qui ont été présentées depuis les débuts.
Oui, beaucoup, mais ça fait, c'était notre neuvième
saison, hein, c'est ça?
Oui, exactement.
Ouais.
Puis, c'est la quatrième production avec Deseo qu'on fait à l'extérieur d'un théâtre conventionnel.
C'est ça.
On avait travaillé La Mondiola, que c'était la première production qu'on avait faite ici dans la maison Folum. Après, on a fait Valparaíso dans une ancienne chapelle. L'année passée, on avait fait la production de La Charte de Julia dans une...
Oui, qui a été très bien accueillie, oui.
Oui, dans un lieu pour danser les tangos. Puis maintenant, ça va être Deseo. C'est notre quatrième production hors
théâtre. Dans cette maison de la rue Folum, qui est quoi exactement? Est-ce que c'est votre quartier général, quoi?
C'est ma maison.
Ah, c'est ça. Je me disais bien que ça semblait. Je dis, c'est sûrement soit le quartier général ou bien la maison de quelqu'un
Oui. C'est ma maison. En effet, toute l'histoire de la maison, c'est toute une histoire en soi. On pourrait prendre une journée complète à raconter l'histoire de la maison. Puis oui, en effet, la maison est quand même assez grande. Puis on avait déjà travaillé à l'intérieur de cette maison avant que ce soit ma maison, avec Soledad Ouafar, qui ont pratiqué ici à l'intérieur. C'est que maintenant, ça est devenu ma maison, mais aussi un lieu de création, de rencontres avec des artistes, pas seulement avec Singulier Pluriel, sino des autres artistes qui viennent des fois pour essayer soit une lecture, soit faire des pratiques.
Vous mettez votre maison à la disposition de d'autres artistes également. C'est pas juste pour vos projets, mais quand même, il y a un bel... Ça veut dire que c'est un lieu d'échange en même temps, et puis interculturel, je suppose,
Exactement. Et on a marre de devenir plus, de plus en plus. parce que c'est vraiment un espace avec qu'on travaille avec beaucoup de liberté, en explorant des différentes cultures aussi. Des fois, quand on arrive, surtout les immigrantes, les artistes immigrants de première génération, quand ils arrivent ici à Montréal, ils ont une grande adaptation à faire. De comprendre comment ça marche, de comprendre comment ça marche notre milieu. Fait que nous autres, on encourage beaucoup à venir ici, à explorer, à échanger, à avoir des discussions, un peu comme on faisait avant, hein, dans les cafés, qu'on discutait des théâtres, ouais. De la culture. Oui, c'est vraiment un lieu d'échange.
Et puis vous, ben, vous étiez bien, quand même bien encadré quand vous êtes arrivé ici. Vous êtes arrivé avec votre mari, ou enfin, vous avez quand même, vous n'êtes pas venu par hasard, c'est-à-dire que vous avez rencontré votre mari, dans votre pays.
Mon Québécois d'amour, oui, en Uruguay, lui étudiait là-bas. Puis après, on a déménagé à Buenos Aires. On a vécu à Buenos Aires 7 ans. Puis finalement, on est venu ici à Montréal s'installer.
C'est ça.
Puis oui, c'est grâce aussi à mon conjoint que j'ai appris beaucoup sur la culture, la politique québécoise. Je suis tombée en amour. Il y a beaucoup des coïncidences, des similitudes entre Montevideo, entre l'Uruguay et le Québec, je trouve.
C'est ça, soit la quête identitaire ou enfin du moins dans l'engagement politique ou enfin c'est ça.
Exactement. Oui. Nous autres, on est un pays très petit, entouré de 2 grands pays, l'Argentine puis le Brésil. Puis on a notre propre culture, notre propre identité. Fait que quand je suis arrivée ici à Québec, je me sentais chez moi.
Oui, non, je comprends. Puis il y avait Julie, bien sûr, que vous connaissiez déjà.
Julie.
Alors c'était très rassurant en même temps. Puis cette collaboration qui s'est tout de suite tissée, parce que Julie, c'est vraiment un théâtre de création. Alors, c'est ça qui l'a fait vibrer depuis toujours.
Exactement. Avec Julie, j'ai toujours dit la même chose. Tout le monde me dit, t'étais adaptée vite. Oui, je me suis adaptée vite grâce aussi à l'aide, à cheminer avec Julie. Parce que Julie, on discutait de théâtre, on discutait de la référence d'ici, on discutait de poésie, de la façon de comment créer.
C'est ça.
Cet échange aussi, ça m'a permis aussi de mieux comprendre aussi la culture québécoise.
Exactement. Ça a été votre guide. Et puis de fonder une compagnie, c'est pas rien quand même. Singulier, pluriel. Où vous accueillez pas mal dans vos créations. Ben, c'est-à-dire que dans les pièces que vous présentez, il y a beaucoup de personnages féminins aussi. Hein? Les femmes sont très présentes.
Oui. En effet, c'est dans l'écriture de Julie. Hein. Nos créations, c'est Julie qui écrit les textes. Puis oui. Il y a beaucoup de femmes. Des femmes d'ailleurs, d'ici. Elles travaillent beaucoup avec l'univers de la femme.
Les femmes, c'est ça. Et vous avez quand même, justement, vous vous êtes penchée là-dessus. Vous avez décidé de créer aussi cette fois-ci. Et puis de faire la mise en scène également.
Oui, exactement. Cette fois-ci, je voulais explorer de l'autre côté. Chaque fois qu'on travaillait avec Julie, c'est Julie qui faisait la mise en scène. Puis cette fois, je dis, bon, Julie, je pense que je suis prête. J'aimerais aller de l'autre côté puis essayer. Puis les défis étaient quand même assez grands, en effet, parce que la formule qu'on essaye d'explorer avec DCO, c'est pas évident, c'est-à-dire...
Non, ça vous fait travailler très fort, là, la façon que vous avez bâti. Oui, parce que... Alors, c'est 5 femmes, 4 histoires, et dans un environnement, évidemment, qui permet juste 45 spectateurs, spectatrices.
Exactement. En effet, la formule, je me suis inspirée d'une formule qui c'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un théâtre que ça vient de l'Espagne, de Madrid. C'était créé en 2001. Ça s'appelle les micro-théâtres. C'est comme un micro-mini-théâtre.
Ouais.
C'est des petites formules de 15 minutes pour 15 spectateurs et spectatrices à la fois dans un lieu limité aussi, quand même assez limité. C'est que, je me suis inspirée de cette formule. Je me dis, j'aimerais créer 4 boîtes noires à la maison pour accueillir aussi 15 personnes à la fois. C'est que les pièces vont jouer en simultané.
En simultané, donc ça dure 15 minutes et c'est le spectateur qui se déplace, si je comprends bien.
Exactement.
Comme si on était des voyeurs, qu'on regardait par un œil de bœuf, façon de parler.
Exactement. Fait qu'on va voir une personne, clairement. Moi aussi, je vais être ici à la maison pour accueillir tout le monde puis diviser les groupes. Les gens vont arriver à la maison, ils vont diviser en 15, puis on va faire les tours pour les quatre pièces. Puis à la fin, pendant qu'on fait les trajets d'une pièce à l'autre, il va y avoir une autre pièce qui va jouer dans les salons généraux. C'est que les gens vont pouvoir se réunir ensemble au milieu de la maison.
Et puis une trame narrative commune ancrée dans la chair, la passion, l'amour, l'éros.
Oui.
Alors c'est ça le Déséo, donc vraiment la thématique. Alors c'est intriguant, évidemment, ça s'annonce. Oui.
C'est très intense. Je peux vous dire à votre public, c'est très intense. Des fois, les gens pensent qu'ils vont venir voir quelque chose de très réel, plus subtil au niveau des jeux actoraux, mais c'est pas le cas. C'est super intense. On va voir les émotions brutes des personnages. On va pas avoir beaucoup de temps pour réfléchir.
Je comprends.
Ressentir.
Et puis, évidemment, des interprètes, vraiment. Écoutez, j'ai peut-être trop parlé de d'autres choses parce que là, j'aurais aimé ça parler, évidemment, des gens qui font partie de la distribution. Mais en tout cas, chose certaine, on va voir votre spectacle. C'est du 2 au 30 septembre à la Maison de la rue Folhomme, Déséo, à ne pas manquer. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Ximena Ferrer, voilà, auteur et metteur en scène. Eh bien, c'est ça, c'est tout le temps qu'on a. Évidemment, bon, je vous retrouve demain, dernière journée de la semaine, mais dernière émission de la saison à M l'été. Après la